Depuis la mi-juillet, on peut se procurer le nouveau roman policier de Christine Brouillette intitulé « Sa parole contre la mienne », livre que j'ai lu pendant mes vacances, 432 pages haletantes. Bonjour Christine Brouillette.
Bonjour Hélène, ça va bien?
Oui, merci, et vous?
Ben, l'été achève et c'est très bien.
Surtout un été chaud comme on connaît, je ne sais pas si vous êtes une adepte de la chaleur tropicale.
Pas du tout. Mais je préfère nettement l'hiver.
Alors, vraiment, il y a un contraste entre ce qu'on vit en ce moment et l'hiver.
Oui. Ben,
merci Christine d'être avec nous en ce lundi matin. J'espère que vous êtes dans un endroit où vous pouvez parler et vous sentir en bien-être et tout rafraîchi.
Pour dire la vérité, j'ai fermé toutes les fenêtres, les portes, parce que moi, j'ai un été non seulement avec la canicule insupportable, mais les voisins démolissent leur maison.
Oh non, il me semble que ça fait longtemps qu'ils sont en train de démolir leur maison.
Depuis le mois d'avril dernier. Alors, je suis encore là-dedans et j'en ai marre.
Ça joue avec les nerfs, on vous comprend.
Ouh là 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 là.
Alors, peut-être que ça va vous inspirer, mais je pense que ça l'a déjà fait, des histoires d'horreur.
Vous connaissez bien.
Vous êtes avec nous pour nous parler d'une nouvelle intrigue. C'est votre nouveau bébé, si je puis dire, qui se déroule sans Maud Graham. Je me demandais si c'était clair dès le départ que sa parole contre la mienne se passerait de votre célèbre détective.
Oui, mais en fait, comme j'ai écrit ce roman-là durant la pandémie, et Maud Graham, on suit à peu près l'actualité, donc on est à peu près dans les mêmes années. Elle vieillit peut-être moins vite que moi, mais quand même, je suis les temps. Alors, la pandémie, j'avais aucune idée de comment ça allait se terminer. Alors, supposez que je donne le manuscrit à l'éditrice en mars.
Oui.
Entre mars et juillet, où le moment, le livre sort, il y a un rebondissement incroyable avec la pandémie. Là, le livre ne fonctionne plus et caduque. Donc, c'était trop risqué de parler de la pandémie maintenant. Il fallait avoir un certain recul. Donc, j'ai pris des notes durant tous ces mois de chaos que nous avons tous vécu. Et je me suis dit, quand j'écrirai le prochain Maud Graham fera des allusions à la pandémie parce qu'on ne peut pas ne pas faire comme si ça n'existait pas. Mais le sujet ne sera pas la pandémie, mais je devais vraiment faire autre chose. Donc, j'ai situé le roman entre 1985 et 2017. Et il y avait une autre raison, c'est que la pandémie, quand c'est arrivé, on était tellement dans la sidération, dans le choc. Mm-hmm. Moi, j'ai craint que les mouvements importants comme moi aussi disparaissent, emporté par cette espèce de tsunami bizarroïde qu'on vivait tous. Alors, je me suis dit, non, il faut continuer à parler de ces dénonciations, de ces mouvements-là. Et donc, j'ai fait ce roman, Sa parole contre la mienne. C'est clair que c'est la parole de la victime contre celle de l'agresseur.
Et mais qu'est-ce que ça raconte là, pour ceux et celles qui n'auraient pas entendu parler encore? Bon, qu'est-ce que vous aviez aussi envie de communiquer, de faire vivre à vos lecteurs et vos lectrices?
Alors, c'est l'histoire de Myriam, qui est une jeune femme dans la trentaine, une jeune journaliste qui est pleine de fougue et d'enthousiasme et de colère aussi contre les prédateurs sexuels. Elle décide, parce qu'une de ses amies a été agressée il y a 10 ans auparavant, et elle décide d'enquêter sur cet homme-là, l'homme qui l'a agressée. Et dans le roman, on suit le parcours des agresseurs, parce qu'il n'y en a pas qu'un, dès leur adolescence. Ce que je voulais montrer, c'est qu'on leur interdit rien. Ils se croient au-dessus des lois. Ils agissent en toute impunité parce qu'on leur a jamais rien refusé. Ils ont de l'argent, ils ont le pouvoir et ils continuent. Ils ne commencent pas à 52 ans là, à violer des femmes. Là. Ils commencent bien avant. Et c'est un parcours qui est horrible, bien évidemment. Mais je voulais également montrer en travers toutes ces années-là ce qui s'est passé au Québec au niveau de la justice et au niveau de ce qui est arrivé aux femmes. Donc, évidemment, j'évoque le 6 décembre, mais j'évoque également des lois, des jugements, des commentaires que des magistrats ont fait en cours qui sont totalement inadmissibles, qui ne passeraient plus aujourd'hui, mais ça montre quand même que le Québec a changé. Donc, malgré mon pessimisme, je veux rester dans l'espoir que les choses vont changer. Moi, je pense que le processus est enclenché avec les mouvements qu'il y a eu et je pense que ça va continuer. Puis je pense que c'est des choses qui vont se passer en équipe. Il faut que les hommes travaillent avec nous. Puis il y en a beaucoup qui sont prêts à ça. Donc, bon, soyons un peu...
Soyons optimistes.
Soyons positifs.
Oui. Est-ce que les personnages sont fictionnels ou créés
oui,
à partir d'humains réels?
Non. Moi, je fais dans la fiction. C'est évident que le personnage de Myriam, il ressemble à... Moi, j'ai beaucoup de jeunes amis. Donc, ces filles-là, dans la trentaine, qui aiment leur boulot et qui sont curieuses de beaucoup de choses, m'ont inspiré Myriam, mais c'est pas... j'ai fait une seule fois un personnage qui n'était pas de la fiction, qui est le personnage de Léa dans les romans de Maud Graham. Léa est la meilleure amie de Maud. Et j'ai vraiment copié ma meilleure amie Esther. Et je l'ai profondément regrettée parce que j'étais superstitieuse et je voulais pas qu'il y arrive à rien.
Oui.
Donc, je me suis dit, plus jamais, je ne crée que des personnages vraiment totalement, c'est inventé de A à Z. Voilà.
Et vous avez réussi une fois de plus, à réaliser un page-turner. Je me demandais en début d'émission, si vous aviez une expression, un équivalent en français à nous proposer pour page-turner,
ah,
Christine.
Mon Dieu! Oh là 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 là! C'est vrai que ça dit bien ce que ça dit. Haletant, si vous l'avez dit au début,
oui.
Ça m'a fait bien plaisir.
Ah, bien tant mieux. Parce que c'est vrai que c'est ça, mais je me demande, est-ce que vous avez une recette pour justement trouver ce rythme-là, vous qui êtes une bonne cuisinière? Quels sont les ingrédients?
Non, si c'était aussi facile qu'en cuisine, ça serait formidable. Mais non, je pense que j'ai de la chance d'un roman à l'autre et bon, un peu d'expertise. Ça fait quand même 39 ans que j'écris.
Oui.
Mais non, probablement aussi que tout ce que je lis doit déteindre d'une manière ou d'une autre sur moi. Quand on lit des auteurs aussi brillants que Hilary ou Yann Manouk ou ici on a Martin Michaud, André Jacques, tout ça.
Des auteurs de polar, de suspense.
Des auteurs de polar qui sont formidables. Alors ça doit déteindre un peu sur, ben, je pense à André Marois avec son merveilleux Bienvenue à Meurtreville. Bon, c'est dans l'humour noir, mais c'est bien ficelé.
Ah, oui.
Maureen Martineau, Zec Lacroche, c'est formidable. Non, on a ici beaucoup de gens que je lis avec un grand bonheur, alors peut-être qu'ils laissent des traces dans mon travail.
Mais j'arrive pas à comprendre comment on fait ça. Oui, je comprends là, qu'il n'y a pas de recette magique, là, parce que ça paraît là, que vous ne faites pas les choses à partir d'un patron, mais qu'est-ce qui fait que ça lève, justement?
Mais je le sais pas.
Non, c'est un mystère.
Non, c'est un mystère. C'est en plus, c'est qu'on n'a pas personne. Aucun auteur travaille de la même manière. Alors, moi, j'ai des plans extrêmement précis. J'ai une psychorigine angoissée, donc il faut que je sache où je m'en vais.
Oui.
Mais je viens de vous citer Manouk puis Hilary, puis ils travaillent sans plan, puis ils font des choses extrêmement complexes. Moi, ça me jette à terre. Je ne comprends pas. Donc, on est tous différents. On a tous une manière d'écrire différente.
Oui.
Moi, ce qui m'aide pour écrire, en tout cas, ce qui me fait comprendre de la construction d'un roman, c'est des ouvrages qui sont sur l'écriture, pas la fiction. La fiction, ça me nourrit, ça me fait plaisir, mais je pense à l'ouvrage de Patricia Smith, de L'art du suspense. Je pense à Sid Field, écrire un scénario. Je pense aux entretiens de François Truffaut avec Hitchcock. Ça, c'est des essais pour moi qui sont intéressants, qui me donnent des pistes, qui me donnent des manières de travailler. Donc, je crois pas qu'on a la science infuse. Et, mm-hmm. Puis, on a aussi un travail à faire de révision, de correction. Moi, je donne un manuscrit, c'est la quatrième ou cinquième version. Donc, peut-être qu'à force de polir l'ouvrage, il finit par être plus lisse. Je
oui.
sais pas, il n'y a pas de...
Et en écrivant, est-ce que vous vous relisez constamment? Est-ce que vous
oui.
relisez page après page?
Je relis beaucoup parce que je dois garder tout ce qui se passe. Alors, souvent, on me dit, quand vous écrivez, vous êtes dans l'émotion. Je suis pas dans l'émotion. Je suis dans l'émotion quand je fais la recherche, quand j'imagine ce qui va arriver. Mais quand je suis en train d'écrire, j'essaie d'être le contrôle le plus total pour ne rien oublier, bien attacher toutes les ficelles.
Mm-hmm.
C'est vraiment un travail de concentration. Donc,
pour cette histoire-ci, ça devait être difficile de ne pas être dans l'émotion.
C'était difficile. Ben, comme je vous dis, c'est séparé. Quand j'écris, c'est pas ça. C'est vraiment de dire, il faut que tout ça se tienne.
Vous êtes capable de vous couper.
Mais je l'ai imaginé avant. C'est au moment de l'imagination, de la création, de l'imagination du roman, où là, ben, évidemment, l'émotion est là aussi parce que dans la recherche, Juste de faire, moi, pour décrire ce qui s'est passé entre 1985 et 2017, j'ai regardé chaque année dans le monde, au Québec, qu'est-ce qui se passait. Puis je me suis souvenue, parce que je me souvenais de rien pour le 11 septembre, là, et c'est dommage, ma mémoire fout le camp, mais quand je relisais le Boeing d'Air India qui avait éclaté en plein vol, ben je pensais aux gens qui étaient en deuil. À ce moment-là, il y avait beaucoup de Québécois sur ce vol-là. J'ai pensé à toutes sortes de choses en revisitant l'histoire. Évidemment, quand on pense à Polytechnique, on a le cœur broyé pour les parents, pour les sœurs, les frères de ces jeunes femmes-là qui avaient tout l'avenir devant elles. L'émotion est là quand je relis ces moments-là. Je me dis, oh mon Dieu, tout ce qui s'est passé, comment la douleur est bon. Mais quand je suis en train d'écrire, ce que je veux, c'est que ça se tienne. Je veux rien oublier. Puis des fois, c'est juste un mot qui va changer le sens d'une phrase. Donc, il faut être très, très vigilant.
Est-ce que vous avez eu plusieurs réactions, des commentaires suite à l'apparition de ce roman?
Mais le commentaire qui revient le plus souvent, c'est « Est-ce que Myriam va revenir? »
Ah oui, on s'est attaché à elle.
Oui, moi, c'était pas prévu, mais je dis pas non. Là, peut-être qu'il y aura une série Myriam après une série Graham. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce qui va arriver. Là, je suis en train de travailler sur le prochain mot Graham. Donc, on verra pour l'avenir de Myriam. Mais c'est sûr qu'elle est plus jeune que moi, donc elle a de bonnes années devant elle.
Ah, bien, ce serait une très, très bonne idée.
Oui, on verra.
Et cet été, est-ce que vous avez surtout lu ou écrit, Christine Brouillet?
J'ai essayé de ne pas assassiner les voisins, mais...
Ah oui!
C'était surtout ça.
Mais les voisins, parce que vous parlez de voisines, à Tania L. et Émilie P., si chères et bienveillantes voisines.
Ah oui, c'est mes adorables.
Ça existe, des bienveillants voisins.
Tania à la pointe, c'est des filles absolument formidables, inspirantes, et elles sont effectivement mes voisines. Alors ça, c'est des voisines de rêve.
Il y en a.
Oui. Non, mais j'ai lu beaucoup cet été, parce qu'en fait, comme je suis en train j'ai fait le plan du prochain mot de Graham, puis j'avance, mais dans le prochain mot de Graham, je sais déjà que Maxime va prendre beaucoup plus de place. Là, il est sorti de l'école de police et tout ça, donc il commence sa carrière. Maud, elle, s'en va vers la retraite, mais lui, c'est le début de sa vie.
Mm-hmm.
Mais j'ai écrit les livres sur une quarantaine d'années, donc je me souviens évidemment pas de tout ce que j'ai écrit. Alors, je suis en train de me relire. Et c'est un exercice éprouvant, parce qu'on voit tout ce qu'on voudrait changer.
Vous êtes très critique envers vous-même?
Ah oui. Oui, mais bon, probablement, je ne l'ai pas été assez, puisque je trouve qu'il y a des choses qui ne devraient pas être comme ça, mais...
Ça fait partie aussi du métier qui nous passionne, parce qu'on veut toujours s'améliorer, sinon ennuyant.
Ben
hier,
oui.
C'est drôle parce que j'étais dans une piscine en compagnie d'une de mes sœurs qui me disait, j'ai dit demain je rencontre, j'ai une entrevue avec Christine Brouillette. Ah, chanceuse, elle dit, je me souviens un des livres que j'ai lu au grand complet quand j'étais plus jeune, c'était « Chère voisine ».
Ah oui.
C'est drôle, hein, chère voisine, on y revient au voisin.
Mais oui. Non, mais c'est le bruit qui me dérange, c'est pas les gens.
Non, vous comprenez tellement. Oui.
C'est insupportable. Mais
non,
bon.
Des voisins silencieux et agréables, ça, on aime ça, on en veut plein.
Oui,
là, mais...
quand les travaux seront terminés, je leur en voudrais pas du tout. Là. Je comprends qu'il y a des travaux à faire,
Oui.
C'est un mauvais addon parce que je travaille chez moi. Si je n'étais pas chez moi, je m'en foutrais. Je travaillais au bureau, je reviendrais, puis
c'est
ça ne me dérangerait pas du tout. Là. C'est un mauvais concours de circonstances.
Tout à fait. C'est un irritant pour ceux et celles qui sont pris à la maison dans des circonstances de télétravail et qui ont des voisins qui font du bruit.
J'ai une amie qui est comédienne qui vit la même chose et elle essaie d'apprendre ses rôles, mais c'est pas évident du tout.
Ah non, faudrait qu'elle s'enferme, qu'elle se trouve un endroit, peut-être louer un chalet en pleine forêt avec vous. Qui sait?
Ouais, cette année, c'est difficile louer des chalets. Hein? Il y en
on est en pénurie de chalets.
Moi, je me trouve une maison au bord du fleuve.
Mais en tout cas, moi, je l'ai lu au chalet, ce roman-là, puis j'ai été prise dedans, là, dès le début. Mais c'est un bon divertissement, mais en même temps, c'est choquant. Malheureusement, la violence sexuelle, ça existe toujours. Vous avez quand même de l'espoir, vous le disiez en début d'entrevue, Christine.
Oui, j'espère que les choses vont changer. Comme je vous dis, je pense que oui, parce qu'il y a une volonté de changer la société. Quand je vois les jeunes autour de moi, et je vois les enfants aussi qui sont élevés On n'entend pas les mêmes réflexions. Il y a des choses qu'on ne tolère plus comme femme, puis c'est une bonne chose. Et c'est un travail communautaire. Si on veut changer la société, c'est que toute la société doit participer à ce changement-là. Mais quand je vois, on vient de parler d'Émilie Perrault et le film qu'ils ont fait avec Monique Néron,
La parfaite victime,
ben c'est un bon outil pour changer les choses. Se dire, et on pourrait penser à réviser les lois, à travailler autrement, à être plus bienveillant envers les victimes, plus à l'écoute. Il y a du travail à faire, mais on se croise pas les bras en se disant, bon, ben tant pis, c'est comme ça, puis ça, on peut changer les choses.
Oui, on parlait justement la semaine passée du tribunal spécialisé là, pour les victimes. Là, Simon Jolin Barrette a annoncé des projets pilotes à cet effet-là.
Des fois, c'est des petites choses, mais à force de multiplier, on change la donne. Par exemple, le service d'autobus à Montréal, ils offrent le soir de laisser une cliente entre deux arrêts de bus pour qu'elle soit plus proche de son domicile, pour plus de sécurité. Bien, des exemples comme ça, si ça se multiplie, bien, c'est une très bonne chose. Donc, il faut avoir ce genre d'initiative et se pencher sur les lois puis essayer de voir comment on peut améliorer le système pour tout le monde.
Sa parole contre la mienne, Christine Brouillette, c'est publié chez Druide. Merci beaucoup, Christine, d'avoir passé du temps avec nous.
Bonne journée. Une belle fin d'été.
Merci, vous de même.
Au revoir.